Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui l'une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle. Une affaire de 1972, l'affaire de Bruet en Artois. Le meurtre d'une adolescente de 15 ans, Brigitte Devèves, fille de mineur. Et tout à l'heure, pour la débriefer, je serai avec un natif de Bruet en Artois qui se trouve être un ancien policier et qui vient de publier coup sur coup deux livres sur cette affaire aux éditions Ravet Anceau. Brigitte, histoire d'une contre-enquête, et Brigitte, acte 2. Bonjour Daniel Bourdon.
Bonjour Christophe.
Et à tout à l'heure. Voici cette histoire complétée par les archives d'Europe 1. Je l'ai écrite avec Emmanuel Denis, réalisation de Céline Lebras. Cette affaire se déroule dans un décor particulier, à une époque particulière. Si vous faites abstraction de tout ça, vous allez passer complètement à côté de cette histoire. On est à Bruet en Artois, dans le Pas-de-Calais, en 1972. Autrement dit, dans un monde mythique, fantasmé. La mine, Germinal, les gueules noires, les coups de grisou, les terris, c'est ça, Bruet. En 1972, une petite ville minière, mais en train de s'éteindre, de dépérir. Avant, il y avait jusqu'à 18 puits de mine dans le coin. En 1972, il n'en reste qu'un en activité, un seul, la fosse numéro 6. Et bientôt, dans les corons, ces petites maisons de briques rouges collées les unes aux autres, il n'y aura plus que des retraités et des chômeurs. Et c'est à ce moment si particulier de l'histoire de Bruet en Artois qu'un après-midi d'avril 1972, le 6, vers 5 heures, on découvre le cadavre d'une adolescente, une fille de mineur, Brigitte Devèves. Il faut que je vous dise où on l'a trouvée. Ça aussi, c'est important. On l'a retrouvée sur un terrain vague. Un terrain vague qui, en quelque sorte, sépare les mineurs des bourgeois de Bruet. D'un côté, le coron, et de l'autre, les belles maisons. Et la première d'entre elles, la maison de Madame Mayer, marchande de meubles, qui a réussi. Une grande villa blanche que les gens d'ici appellent le château. Le terrain vague est pile entre le coron et le château. Pile au milieu. Et donc, vers 5 heures, des gamins jouent au football, ils envoient le ballon un peu trop loin et ils tombent sur un cadavre, vaguement dissimulé sous un pneu.
Là, Jean-Pierre, viens voir, là. Il y a un truc, là. C'est quoi, ça? On dirait que c'est quelqu'un. Faut prévenir les parents.
Les parents préviennent le commissariat et quand les policiers arrivent, il y a déjà tout un attroupement sur place. La nouvelle a fait le tour du coron voisin. Et donc, quand les flics soulèvent le pneu, il y a toute une foule pour regarder par-dessus leur épaule. C'est une jeune fille, à moitié nue. Il ne reste que son chemisier. Son soutien-gorge a été arraché. Elle a le corps tout griffé, tout sale. Elle porte des marques autour du cou comme si on l'avait étranglée. Et des entailles sur la tête, profondes. Et là a lieu une scène terrible. Un homme sort de la foule, timide. Tout le monde le connaît, c'est un mineur, Léon Devèves. Et il dit aux gendarmes.
Cherchez pas, les gars. Chez ma fille, là. Chez ma fille.
Elle s'appelait Brigitte. Elle avait 15 ans. Et l'enquête sur sa mort va bouleverser Bruet en Artois pendant des mois et des années. Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle de 1972, l'affaire de Bruet en Artois. Et pour le débrief tout à l'heure, notez que je serai avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon et qui a mené une contre-enquête et publié deux livres coup sur coup aux éditions Ravet Anceau. Nous en étions au tout début, quand un après-midi d'avril 1972, on découvre sur un terrain vague le cadavre à moitié nu d'une adolescente de 15 ans, Brigitte Devèves, fille de mineur. Les policiers, tout de suite, interrogent les parents. Ils ne l'ont pas vue depuis la veille au soir et c'est normal. Vers 5h30, Brigitte est allée dormir chez sa grand-mère pour lui tenir compagnie. La grand-mère habite juste de l'autre côté du terrain vague. Elle avait quoi, 700 mètres à faire. On l'a tuée à ce moment-là, a priori, quand elle a traversé le terrain. Les policiers de la police judiciaire de Lille prennent le relais du commissariat local. Et quand ils arrivent sur les lieux, ils tombent sur une petite foule, des dizaines de curieux venus voir où ça s'est passé. Et piétinant allègrement au passage la scène de crime. En 72, on ne prenait pas toutes les précautions d'aujourd'hui. Ils fouillent malgré tout en randonnion, ils ratissent tout le terrain, ils cherchent l'arme du crime qui, d'après le médecin légiste, pourrait être une hache, un hachoir ou une serpe. Un objet tranchant, en tout cas, et lourd. Ils ne trouvent rien. Et pas non plus d'ailleurs les lunettes de Brigitte. Et ça, c'est bizarre, parce qu'elle les avait toujours sur le nez. Ensuite, ils essayent de reconstituer son parcours. À 5h30, elle part de chez elle. Ses parents disent qu'au passage, dans la cuisine, elle prend une orange. Ça a l'air d'un détail, mais le légiste a retrouvé, évidemment, cette orange dans son estomac. Et le niveau de digestion permet de situer l'heure de sa mort. Aux alentours de 20h, 20h30. Donc, elle sort de chez elle avec son orange. Et là, elle croise une copine, Micheline. Et plus loin, un garçon, Jean-Pierre. D'après ce qu'ils disent tous les deux, ils restent ensemble à discuter jusqu'à 7h30. Et là, Brigitte repart en direction de la maison de sa grand-mère. Une habitante de la rue de Ranchicourt dit qu'elle la croise vers 8h20. Son témoignage est essentiel parce qu'elle dit qu'elle n'était pas seule.
Il y avait un gars, grand avec un pull à col roulé. Il était de dos. J'ai pas pu le reconnaître, mais bon, elle avait l'air normale, hein. À mon avis, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, hein.
Après, plus personne ne la croise jusqu'à sa mort. Mais une dame de la rue de Ranchicourt, une infirmière qui rentrait du travail, apporte un témoignage très intéressant. Elle est rentrée chez elle vers 8h10. Et elle n'a pas pu se garer comme d'habitude devant chez elle.
Bah, c'est qu'il y avait une voiture garée. Une Peugeot 504 blanche. Ça m'a contrarié, alors je l'ai remarqué, quoi.
Elle a surtout remarqué qu'il y avait quelqu'un dedans. Une silhouette, elle n'a rien vu d'autre. Vers 10h30, elle a regardé par la fenêtre, la voiture était toujours là, mais vide. Alors elle est allée voir avec sa petite lampe de poche, elle a remarqué qu'il y avait une raquette de tennis à l'arrière. Et surtout, la bonne dame a noté le numéro d'immatriculation. 4163-JQ62. Les policiers appellent la préfecture.
Allô? Oui, la police judiciaire de Lille à l'appareil. Ça serait pour avoir le propriétaire de la plaque 4163-JQ62. Oui, j'attends. Pierre Leroy, vous dites. L-E-R-O-Y. D'accord, je vous remercie.
Et là, stupéfaction. Pierre Leroy? Mais Pierre Leroy, c'est le notaire de Bruay. Qu'est-ce qu'il faisait là, à cette heure-là? Son étude est de l'autre côté du terrain vague, rue de la République. Alors tout notaire qu'il est, Pierre Leroy est convoqué par la PJ. Pour un interrogatoire de routine, il s'agit de fermer une porte, comme on dit en langage policier. Il n'y a pas de suspicion particulière à son endroit. Alors pourquoi est-ce qu'il se montre si nerveux devant les policiers?
Monsieur Leroy, vous pouvez nous dire ce que vous faisiez le 5 avril vers 20h? Vers 20h? Oh ben je sais pas trop. J'étais sûrement chez moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous enquêtons sur la mort de la petite Brigitte de Vèvre. Vous avez dû en entendre parler, non? Quoi? Ah non. J'en ai pas entendu parler. On sait que votre voiture était dans la rue de Ranchicourt le 5 avril vers 20h. Qu'est-ce que vous faisiez là? Votre étude n'est pas là? Oh ça, c'est parce que j'étais pressé. J'avais un rendez-vous, j'étais très en retard. Alors j'ai regardé ma montre, il était 8h30, je me suis garé au plus proche, sans faire attention quoi. Un rendez-vous, à 8h30. Bah, c'est que c'est un peu délicat. Je préfère pas en dire plus, si vous voulez bien.
Ah, mais il faut tout nous dire, monsieur le roi. On parle d'un meurtre, là. Avec qui aviez-vous rendez-vous? Bon, eh bien, j'avais rendez-vous avec Monique Mayer. Ah, le notaire est l'amant de madame Mayer, la propriétaire du château, comme ils disent, la marchande de meubles. Et le problème, c'est que madame est en instance de divorce, ça n'est pas encore fait, donc ils sont discrets. Bon. Et après, il explique que la nuit du meurtre, ayant garé sa voiture loin de chez son amoureuse, pour passer inaperçu, il a traversé le terrain vague, vers 8h30. Au bout du terrain, il a sauté par-dessus la haie pour arriver par la porte de derrière du château. Puisque vous êtes passé par le terrain, monsieur le roi, vous avez vu le corps de la petite Brigitte? Ah ben non. Ah ben non, j'ai rien vu du tout. Le problème, c'est qu'il dit qu'il est arrivé à 8h30. Et là, il ment, puisque l'infirmière l'a vu dans sa voiture vers 8h10. Vous allez me dire, c'est chipoté, mais comme c'est au cours de cette demi-heure-là que Brigitte a été tuée, il vaudrait mieux pour lui que les horaires concordent, et ils ne concordent pas. Et puis, il a dit qu'avant ça, il était passé chez lui pour se changer. Alors on va interroger sa mère. Elle ne l'a pas vu. Du coup, il change de version. Finalement, il est arrivé un peu en avance. Il se souvient maintenant. Il est resté dans sa voiture à écouter de la musique classique. Et puis quand il a dit tout à l'heure qu'il n'était pas au courant du meurtre de la petite Brigitte, c'était pas vrai. Il a menti. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça, d'après vous? De tous ces petits mensonges inutiles? Ça le rend suspect, non? Pour le juge, en tout cas. Oui, ça le rend suspect. Il pense que c'était peut-être lui, l'homme au col roulé, qui discutait avec Brigitte juste avant qu'elle ne soit assassinée. Et donc, il l'inculpe pour le meurtre de Brigitte Devèvre. Il l'inculpe et il l'envoie en prison. Oui, monsieur, le notaire, membre du Rotary Club, il l'envoie en prison pour le meurtre monstrueux d'une fille de mineur. En 1972, ça va faire un sacré foin.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle de 1972, l'affaire de Bruet en Artois, que je vais débriefer tout à l'heure avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon et qui a mené une contre-enquête et publié deux livres coup sur coup aux éditions Ravet-Anceau. Brigitte Devèvre, 15 ans, fille de mineur, est retrouvée assassinée le 6 avril 72 sur un terrain vague de Bruet en Artois. Un suspect vient d'être arrêté. Il s'agit du notaire de Bruet, maître Pierre Leroy. À l'heure du crime, il a traversé le terrain vague pour rejoindre discrètement sa maîtresse qui habite une villa qui donne sur le terrain. Il vient d'être inculpé de meurtre et écroué. Un notaire qui étrangle une fille de mineur. 4 ans après 1968, dans une France nourrie à la lutte des classes, laissez-moi vous dire que ça ne passe pas inaperçu. Les journalistes déboulent de partout. Et où vont-ils quand ils arrivent? Eh bien, droit chez Léon Devèvre, chez le père de la petite Brigitte et chez sa femme. Et qu'attendent les journalistes? Que tous les deux leur parlent? Du notaire?
Pour moi, c'est vraiment pas croyable, un monsieur si haut placé. Hein.
Est-ce que votre fille connaissait, monsieur le roi?
Je ne crois pas, monsieur. Hein. Parce que c'était pas une fille que... Hein, fille de rue, quoi. Hein.
Oui. Ce qui est arrivé, c'est quand elle sortait de chez sa grand-mère.
Oui, elle allait toujours le même chemin qu'elle prenait, quoi. Sûrement qu'elle était surprise parce que c'était une fille qui ne s'était pas approchée comme ça. Hein.
D'après vous, est-ce que monsieur le roi serait capable de faire une chose comme ça?
Ni, on peut toujours nier, monsieur. Hein. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Et là, commence à apparaître de manière assez diffuse, comme ça, dans les corons, l'idée qu'il va s'en sortir. Parce que c'est un bourgeois. Parce qu'il a des amis haut placés. Il paraît que quand il est arrivé au palais de justice, le procureur lui a serré la main, figurez-vous. Oui, serré la main, et longuement avec ça. Ils se connaissent du Rotary Club à ce qui paraît. Ces gens-là, ça se protège. Je ne vous ai pas encore parlé du juge qui instruit cette affaire. Il faut pourtant, parce que c'est un personnage essentiel de l'histoire. Le juge Henri Pascal, de Béthune. Tout petit, la figure toute ronde, avec des lunettes. Dans cette affaire, tout le monde va l'appeler le petit juge. Il a une conception très personnelle de son rôle. Il est convaincu que le notaire est coupable, alors il le répète à qui mieux, aux journalistes qui défilent dans son bureau. Il adore les journalistes. Et tous les jours, il leur distille des informations. À charge, bien sûr, contre le notaire. Faut dire qu'en face, le notaire se défend très mal. Il sert à chaque fois une version différente de sa soirée du 5 avril. Il dit qu'il est passé par le terrain vague pour entrer discrètement dans la villa de sa maîtresse, sans qu'on le voie. Mais les gens disent qu'avant ça, il rentrait par la grande porte, sans se gêner. Il dit aussi qu'il a attendu 8h30 dans sa voiture pour laisser le temps au mari de Madame Mayer de s'en aller. Mais le mari ne vient plus chez sa femme depuis belle lurette, elle vit seule. Alors pourquoi est-ce qu'il ment, si ce n'est parce qu'il est coupable? 4 jours après avoir inculpé Maître Leroy, le juge Pascal donne une conférence de presse.
Bon. J'ai instruit parce qu'il y avait des charges sérieuses, un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes contre le notaire. Je pense que cela suffisait pour que je l'inculpe et que je place mon mandat de dépôt. Tant que je n'ai pas d'éléments nouveaux, et je considère que ce faisceau de présomption constitue pour moi une preuve. Voilà, j'en suis là pour l'instant.
Et 3 semaines après le crime, le juge organise une reconstitution qui attire des milliers de curieux, comme au spectacle. Et quand on sort le notaire du fourgon de police, les gens se mettent à huer. On l'emmène là où un témoin, une voisine, a vu Brigitte parler avec un homme en col roulé. Vous vous souvenez de ça? On lui fait enfiler un pull à col roulé. Et le juge se tourne vers la voisine. Ça correspond comme ça? Est-ce que c'est ce que vous avez vu? Ah non. Ah non, non, non. Non, c'est pas lui. Monsieur Leroy est beaucoup plus corpulent que le gars que j'ai vu. Non. C'est pas lui. Ah bon. Le juge est un peu décontenancé. À ce moment-là, comme le dossier manque de preuves et que la reconstitution, il faut le reconnaître, a été peu concluante, le procureur demande la libération du notaire. Eh bien voilà, c'est la preuve qu'il est protégé. Voilà ce que disent les gens. Les bourgeois se serrent les coudes. À partir de ce moment-là, l'affaire de Bruet en Artois devient une affaire politique. Incroyablement politique.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle de 1972, l'affaire de Bruet en Artois. Et pour le débrief tout à l'heure, notez que je serai avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon et qui a mené une contre-enquête qui a donné lieu à 2 livres coup sur coup aux éditions Ravet-Anceau. En avril 1972, dans un terrain vague de Bruet en Artois, on retrouve le cadavre d'une adolescente, une fille de mineur, Brigitte Devers. Un suspect est rapidement arrêté et inculpé. Il s'agit du notaire, Maître Pierre Leroy, qui se trouvait aux abords des lieux du crime le soir du meurtre. Le juge d'instruction, le juge Pascal, est absolument convaincu qu'il est le coupable. Mais le procureur, qui constate que le dossier manque de preuves, demande sa libération. Et là, il va se passer quelque chose qui, évidemment, avec les lunettes d'aujourd'hui, va vous paraître absolument surréaliste. L'affaire devient politique. Et pour comprendre, il faut se placer dans le contexte de 1972, 4 ans après 68. Les gauchistes, tendance maoïste, sont à la fête. Et cette histoire de notaire qui tue une fille de mineur est une excellente occasion de réveiller la lutte des classes. Les Mao s'emparent donc de l'histoire de Bruet. Avec à leur tête une grande conscience de l'époque, le philosophe Jean-Paul Sartre et son journal La Cause du Peuple. Le 1er mai, le journal titre « Et maintenant, ils massacrent nos enfants ». Avec un sous-titre « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». Et voilà donc les Mao qui débarque à Bruay avec une camionnette et des piles de tracts. Et qui s'installe où ça? Eh ben, sur le terrain vague, où il crée un comité pour la vérité et la justice. Devant la camionnette, ils ont installé une petite table et posé dessus des cahiers d'expression libre. Et toute la journée, les gens viennent écrire dessus toute leur haine du notaire. Faut le pendre par les couilles. Faut le découper au rasoir. Page après page, coupable parce que notaire, coupable parce que riche, coupable parce que bourgeois. Et tous les soirs, les membres du comité vont apporter les cahiers à leur héros, le juge Pascal. Quelle époque de fou. Et comme on est loin de la justice. Alors la justice, justement. Vous vous souvenez que le procureur lui-même, constatant que le dossier contre le notaire est assez mince, sans preuve, a demandé sa libération. Le juge avait 5 jours pour répondre. Il fait traîner le suspense jusqu'au bout, pour finir par annoncer avec un petit sourire « J'ai décidé de le maintenir en détention ». Le procureur fait immédiatement appel. Là-dessus, le 4 mai, les médecins légistes livrent un nouveau rapport. Sur le corps de Brigitte, ils ont noté des traces de doigts sur les chevilles et sur les poignets. Ils suggèrent donc que le corps a été déplacé par 2 personnes. Une qui lui tenait les bras et l'autre les chevilles. Et vu par les maoïstes aux idées courtes, qu'est-ce que ça donne d'après vous? Eh bien, la deuxième, c'est Monique Mayer. C'est la maîtresse, c'est la marchande de meubles, c'est elle la complice. Les gens sont d'ailleurs allés écrire sur le mur de sa maison « Arrêtez la complice ». Et là va se produire un petit miracle, un témoin de dernière minute, un certain Clément Leblanc. Il est électricien, il raconte que le soir du meurtre, il était en train de pisser dans un coin de la rue de Ranchicourt. Et il a vu passer un homme chauve et corpulent, avec une fille de 15 ou 16 ans à son bras. Incroyable, hein? Pourquoi est-ce qu'il ne le dit que maintenant? On est presque 2 mois après le meurtre. Mieux que ça, un peu plus loin, il est tombé sur une Peugeot 504 blanche. Et qui était au volant, d'après vous? Une femme, avec les cheveux courts, costauds. Madame Mayer, forcément Madame Mayer. Le petit juge se frotte les mains. Alors il fait venir Madame Mayer et il la met au volant de la 504. Et il demande au témoin providentiel « Vous la reconnaissez ?» Le témoin hésite un peu.
« Ouais, c'est peut-être elle, je sais pas trop. Ça peut correspondre. »
Qu'importe, le juge Pascal inculpe Madame Mayer de complicité et il l'envoie en prison. Là-dessus, le lendemain, la cour d'appel d'Amiens décide qu'il n'y a pas assez de charges contre le notaire et elle le libère.
Est-ce que vous n'avez pas ressenti ce matin à cela comme un désaveu?
Ah, pas du tout, absolument pas. Moi, j'ai une opinion, d'autres personnes ont une autre opinion. Non, absolument pas. Il y a une situation bizarre d'ailleurs, je reconnais qu'il est bizarre maintenant, c'est que Monique Bayer est en prison, alors c'est la complice, et lui, le notaire, est en liberté. Alors, ça pose évidemment un problème auquel je ne suis pas insensible. Je réfléchis à tout ça, je ne sais pas.
Notez le vocabulaire du juge. La complice, l'auteur, le juge Pascal ne s'embarrasse pas avec la présomption d'innocence. Peu importe en vérité, cette impartialité du juge est devenue tellement criante que la Cour de cassation décide de le dessaisir. Elle lui retire le dossier de Bruay en Artois. Et lui, il voit une décision politique.
Lorsque j'ai eu cette affaire en main et que j'ai mis le notaire en prison, j'ai immédiatement compris que tous les moyens seraient employés, les moyens les plus inaccoutumés, les plus inhabituels, pour que le notaire soit blanchi, pour que son rôle soit le moindre possible. J'ai tout de suite compris que je risquais même d'être dessaisi. Et c'est pourquoi, je me suis efforcé d'aller le plus vite possible. J'ai agi en toute sérénité, en toute impartialité, à mon âme et conscience. Mais enfin, un jour, j'ai entendu tout de même le roi qui disait aux journalistes qu'il interviewait en sortant de mon cabinet, je sortirai de gré ou de force. Il l'a dit, ça s'est réalisé.
Dans la foulée, Monique Mayer, elle aussi, est libérée. Et tant qu'à faire, on change aussi de service de police. Bye bye la PJ de Lille, c'est la PJ de Paris, le 36 quai des Orfèvres, qui reprend le dossier à zéro. Et il faut attendre de très longs mois jusqu'au prochain rebondissement. Le 18 avril 1973.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Les habitants de Bruay-en-Artois ont peine à y croire. Hier soir, un jeune homme de 17 ans et demi s'est accusé du meurtre de Brigitte Devèvre.
Jean-Pierre Flahaut. Vous vous souvenez, c'est avec lui que Brigitte a parlé longuement le soir du crime, pendant qu'elle mangeait son orange en sortant de chez elle. Jean-Pierre, tout le monde le connaît, à Bruay. C'est un orphelin élevé par son frère. Et donc il a avoué. Mais dans quelles conditions? Les policiers parisiens lui ont tendu un piège, en vérité. Ils ont fabriqué un faux procès-verbal, un témoin bidon qui prétend l'avoir vu sur les lieux du crime. Regarde Jean-Pierre, là. Il y a un témoin qui, à 20h05, dit qu'il t'a vu sur le terrain avec Brigitte. Oh, c'est pas vrai. J'ai un menteur. Allez, Jean-Pierre. Il y a un autre témoin qui dit que c'est bien toi. Il t'a reconnu. Alors, sous pression, Jean-Pierre craque. Oui, c'est vrai. C'est bien moi qui ai tué Brigitte. Chez moi. L'homme avec le pull à col roulé. Que vous cherchez chez moi. Mieux que ça, c'est lui qui possède les lunettes de Brigitte. Il les a cachées dans un fauteuil chez sa mère. Les policiers vont vérifier. Elles y sont.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une grande affaire criminelle de 1972, l'affaire de Bruay-en-Artois. Que je vais débriefer tout à l'heure avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon et qui a mené une contre-enquête et publié coup sur coup deux livres aux éditions Ravet-Anceau. En avril 72, une adolescente de 15 ans, Brigitte Devèvre, est retrouvée morte sur un terrain vague de Bruay-en-Artois. Dans un premier temps, le juge d'instruction, le juge Pascal, incrimine le notaire de Bruay qui se trouvait sur les lieux au moment du crime. Mais il est dessaisi, son accusation manque de preuves. Et le notaire est libéré. Un an plus tard, l'enquête reprend à zéro et conduit à l'arrestation d'un adolescent de 16 ans, Jean-Pierre Flahaut, qui avoue et fournit pour preuve les lunettes de l'adolescente qu'il a conservées. Et là, autant vous dire que les parents de Brigitte n'y croient pas une seconde. Pour eux, c'est toujours le notaire qui est coupable.
Et vous ne pensez toujours pas à la culpabilité de Jean-Pierre Flahaut, enfin tant que vous ne l'aurez pas en face
non,
de vous.
Monsieur, pour moi, l'assassin, ce sera toujours le roi, et Monique Mayer.
Et si Jean-Pierre Flahaut vous dit en face, c'est moi qui ai commis le crime.
Il aurait été payé pour le dire, monsieur.
Les lunettes, vous l'avez compris, sont une preuve accablante pour Jean-Pierre. Le problème, c'est que ni la mère, ni la grand-mère de Brigitte ne les reconnaissent, ces lunettes. Et puis, ses aveux ne tiennent pas debout. Jean-Pierre a dit aux policiers qu'il avait rendez-vous avec Brigitte sur le terrain, un rendez-vous galant. Qu'ils se sont chamaillés, qu'elle est tombée, qu'elle ne respirait plus, qu'il a eu peur et qu'il a décidé de maquiller l'accident en crime sadique. Le problème, c'est qu'à aucun moment, il n'a dit qu'il l'avait étranglée. Or, elle a été étranglée. Et on le lui fait remarquer. Alors il corrige.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Elle a respiré encore, elle m'a dit des choses méchantes. Alors je l'ai étranglée avec mes mains.
Avec ses mains? Mais Brigitte n'a pas été étranglée à main nue. Elle a été étranglée avec un foulard, a priori.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. En fait, il y avait un foulard par terre, alors j'avais chargé, étranglé.
Les aveux de Jean-Pierre sont totalement bancals. Et le juge Pascal, qui a été dessaisi, mais qui n'en est pas pour autant muet, s'en régale.
C'est une
chose qui ne m'a pas surpris. Qui ne m'a pas surpris parce que il a tout à fait le caractère de quelqu'un qui doit avouer quelque chose même qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est son caractère. C'est un garçon qui aime briller, qui aime faire de l'épate, qui se pavanait comme un coq au milieu des filles, qui était tout heureux et ravi d'être mêlé à cette affaire.
Lors d'une reconstitution, un an plus tard, les gestes de Jean-Pierre ne collent pas du tout avec les constatations des médecins légistes. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il revient sur ses aveux, il a menti, ça n'est pas lui qui a tué Brigitte Devèvre. N'empêche qu'on va quand même le juger, pour le meurtre, à huis clos, puisqu'il était mineur. Et il est acquitté, ça n'est pas lui. Et depuis ? Eh bien depuis, il ne s'est rien passé. L'affaire a été classée en 1981. Le juge Pascal est mort en 1989, le notaire est mort en 1997, et depuis 2005, l'affaire est définitivement prescrite. Le crime de Bruet restera une affaire sans coupable, quoi qu'il arrive. Alors pour débriefer cette histoire absolument passionnante, je suis avec un ancien policier qui s'appelle Daniel Bourdon. Alors Daniel Bourdon, on dit les choses tout de suite, vous êtes un ancien policier mais vous n'avez pas du tout travaillé sur cette affaire.
Tout à fait.
Vous n'êtes même pas un spécialiste de la criminelle.
Tout à fait.
Mais vous êtes né à Bruet en Artois.
Eh oui.
Et vous y avez grandi, vous y étiez à l'époque des faits.
Oui, bien sûr, j'avais 13 ans, j'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans sur Bruet, je connaissais cet endroit parfaitement, je connais tous les protagonistes, on se croisait dans le collège, école, enfin tout ce qui a fait mon enfance, et puis surtout, mon père est aussi un ouvrier des mines, donc je vis la même vie que Brigitte vit dans les corons.
Vous avez grandi dans le même genre
de
corons.
Le même milieu.
Le même milieu. Ça vous avait laissé un goût amer, cette histoire inachevée?
Au fur et à mesure du temps, à 13 ans, non moins, mais en vieillissant et en regardant l'affaire de nouveau, oui, ça laisse un goût amer parce qu'on se demande qui a fait vraiment quoi et quelle est la vérité, ou je dirais la vraie vérité, parce que on a souvent entendu dire la vérité.
Oui. Alors, comme les policiers partent en général un peu jeunes à la retraite, pour une raison simple, d'ailleurs, on peut le dire au passage, hein, c'est parce que ils collent toute leur récupération et toutes leurs heures supplémentaires.
Oui, hein. Il y a tout un système qui n'a plus lieu aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Hein.
Alors, ce qui vous est arrivé à vous, c'est important de le dire, c'est que vous n'avez pas fait vraiment ce qu'on appelle une contre-enquête. D'abord, vous n'en avez pas les moyens, sans carte de police.
Exactement.
Et sans moyens, on peut pas y arriver. Mais au fond, vous avez profité de quelque chose qui est très intéressant, c'est que le temps passant, les langues se délient. C'est ça. Hein.
Voilà, je connais bien les lieux, je connais les gens.
Surtout les gens.
Les gens vont me faire... Je suis un enfant du pays, je me suis dit, après avoir rencontré une personne, disons, importante de cette affaire, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et peut-être que je peux le faire, parce que justement, je suis un ancien bourrésien et en même temps, un ancien policier qui peut quand même savoir réunir des preuves et les corroborer.
Alors, vous avez réuni les confidences de deux ou trois personnes essentielles, deux qui vous ont dit qu'elles avaient déplacé le cadavre de Brigitte Devèvre.
Alors ça, c'est à la fin de ma première
enquête, de votre premier livre qui s'appelle Brigitte, l'histoire d'une contre-enquête chez Ravet Anceau. Et à la fin de votre deuxième livre, il y a une dame qui vient vous dire, c'est mon ancien mari qui a tué Brigitte Devèvre. On en parle après la pub.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire dite de Bruet en Artois, 1972. On est dans le Pas-de-Calais, c'est une enquête impossible au fond sur le meurtre d'une adolescente de 15 ans qui s'appelait Brigitte Devèvre. Impossible puisque à ce jour, personne n'est arrivé à dire qui l'avait assassinée. Et pour le débrief, je suis avec Daniel Bourdon. Daniel Bourdon, vous avez grandi là-bas, vous aviez 13 ans au moment de l'affaire et vous êtes un ancien policier retiré des affaires et vous avez tenté de recueillir au fond ce que les gens n'avaient pas voulu raconter à l'époque. Et ça a débouché sur deux livres que vous avez publiés coup sur coup à un an d'intervalle. Le premier l'année dernière, Brigitte, histoire d'une contre-enquête aux éditions Ravet Anceau et chez le même éditeur, Brigitte, acte 2. Alors, la conclusion de votre premier livre, si j'ai bien compris, vous avez retrouvé deux hommes qui étaient des gamins à l'époque, qui avaient quel âge?
Alors,
je vais pas citer les noms puisque si j'ai bien compris, c'est pas les vrais noms.
Hein. Non, c'est pas les vrais noms, mais tous ceux qui connaissent l'affaire savent très bien. Il y en a un qui est disparu un an après l'affaire et l'autre que j'ai retrouvé dans la banlieue de Lille, qui lui, d'une façon improbable, m'a raconté l'histoire du déplacement du cadavre de Brigitte.
Bien Donc sûr. Ils ont déplacé le corps pour quelqu'un, c'est ça? Le lendemain.
C'est là où il y a encore du travail. Oui, normalement, ils ont déplacé pour quelqu'un.
C'est ce qu'ils disent, eux.
Oui, mais c'est ce qu'il dit, lui, enfin, en tout cas, celui qui reste. Voilà. C'est ce qu'il dit. Il dit que il m'a donné des raisons, mais en même temps, il faut vérifier encore, parce que l'enquête n'est pas terminée. Si vous voulez, l'affaire de Brouet, à l'issue de la sortie de mon premier livre, on est tombé sur deux volets, quoi. On a deux volets sur l'affaire de Brouet.
À chaque fois, ça ouvre des,
oui,
ça ouvre
des pistes. C'est une usine à gaz, quand même. Hein.
C'est une usine à gaz. Donc, au départ, vous tombez sur un bonhomme qui dit, avec un copain à l'époque, on a déplacé le corps pour quelqu'un, et donc pour de l'argent.
Pour de l'argent.
C'est-à-dire qu'ils ont été les hommes de main de quelqu'un.
De quelqu'un qui leur a demandé de déplacer le corps.
Quand le corps, donc?
Alors, il est tué le 5.
Il le tue le 5, on le découvre le 6. Et pendant 24 heures, le corps est donc sur le terrain vague.
Disons, si on prend l'heure dite par l'autopsie, c'est entre 20h, oui, le 5 au soir, pour être déplacé le lendemain entre midi et 14h.
D'accord.
Exactement.
Il confirme que c'est à cette heure-là qu'il dit avoir...
De toute façon, dans mon livre, j'explique bien pourquoi c'est à cette heure-là que le corps a pu être déplacé.
Pour quelle raison?
Parce que dans la nuit, c'était pas encore prévu qu'il faille déplacer le corps. Peut-être Brigitte n'avait pas encore été découverte.
D'accord.
Dans mon deuxième livre, je découvre que l'assassin n'est absolument pas le notaire, bien sûr.
Alors, le contexte quand même de cette histoire, parce que ces deux gamins là qui déplacent le corps pour le compte de quelqu'un d'autre, vous situez ça dans un contexte qui serait quoi? Des histoires de fesses.
Exactement. Partie fine, un peu de prostitution sans doute. Ce qui avait lieu d'ailleurs dans cette région à ce moment-là. Pour preuve, 20 jours avant, je retrouve un crime qui a été 20 jours avant, Myriam Williams qui est tuée à Cochet-la-Tour, une affaire qui n'a absolument rien à voir avec l'affaire de Brouet, mais on se rend compte qu'il y a effectivement la prostitution autour de ça.
Donc il y avait vraiment, ça, de cela vous êtes certain, à l'époque dans la région de Bruay-en-Artois, des gens qui faisaient des partouzes.
Oui, un peu ça. Alors les
mais avec des filles qu'on payait plus ou moins.
Oui, voilà. Ou dans ce bois, il se passait surtout quelque chose. Et ça, c'est les derniers témoignages qui arrivent dans ce bois où Brigitte a été trouvée. Il devait se passer certaines choses. Et ça, c'est un témoignage qui est arrivé à la fin de l'enquête de mon deuxième livre.
Mais pardonnez-moi, il y a quelque chose que j'ai quand même du mal à croire. Bon, on a tous en tête, enfin en tout cas les plus vieux, la photo de Brigitte de Vèvre.
Hein.
C'est une fille, pardon de le dire, qui a l'air un peu coincée, un peu réservée, un peu boutonneuse. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que Brigitte de Vèvre hypothétiquement participer à ces parties fines?
Non, justement non. Justement, c'est là où il y a le problème, c'est que Brigitte a dû être soit confondue à cette heure-là avec quelqu'un d'autre, hein, mais c'est là où j'en suis aujourd'hui, où on a cru que Brigitte participait, mais Brigitte n'a effectivement jamais participé à ce genre de choses.
Mais l'ancien gamin, devenu vieux aujourd'hui, qui vous met sur cette piste-là, il sait lui ce qui se passait là?
Pas vraiment.
Ou il est neuneux et
il est un peu, c'est un homme qui est d'ailleurs toujours perturbé, hein, même malgré ses 62 ans aujourd'hui, et qui lui ne sait pas vraiment, lui on va le chercher parce que c'est un homme qui pique des autoradios, qui gagne un peu de l'argent comme ça,
oui.
Et on lui dit voilà, il y a une fille qui s'est fait blesser hier, c'est un accident, il faudrait simplement déplacer le corps pour éviter des ennuis à certaines personnes. Voilà, c'est exactement ça qu'on lui dit.
C'est lui qui vous donne le nom du donneur d'ordre, du commanditaire de...
Oui, mais je l'avais déjà trouvé avant, mais il me le confirme.
Alors, une femme vient vous dire, c'est mon ancien mari qui a tué Brigitte de Vèvre.
Alors, à la sortie de mon premier livre... Je comptais bien pour avoir d'autres témoignages, pour que les gens puissent voir que finalement j'apporte des choses nouvelles dans l'affaire et surtout que ces gens puissent venir me raconter ce qu'ils savaient et qui n'ont peut-être pas voulu le dire pour beaucoup de raisons en 72 ou 73 et dans les années qui ont suivi. Et j'ai un monsieur qui se présente, qui fait le relais de sa tante et qui me dit voilà, j'ai lu votre livre, le premier livre donc. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais là où on n'est pas d'accord, c'est que pour moi, le fameux Enoch, que je nomme Enoch, n'est pas l'assassin. Alors je lui dis, j'ai pas dit que Enoch a été l'assassin, j'ai dit que
il pourrait
être potentiellement un assassin. Mais il me dit, parce que moi je le connais, l'assassin. Donc là, à partir de là, évidemment, on prend oui ou non au sérieux ce monsieur, mais très vite je vais m'apercevoir que c'est un homme qui est tout à fait sérieux, qui travaille pour la police, qui n'est pas policier mais qui travaille, et puis il va m'apporter des éléments importants, et il va me faire rentrer en relation avec sa tante, qui vit dans le sud de la France. Je vais l'enregistrer, et elle va par quatre fois me donner les mêmes témoignages.
Donc elle vous dit que son mari lui a avoué avoir tué Brigitte.
Tout à fait.
À quelle époque?
Alors, elle le confond dès le lendemain, c'est-à-dire dès le lendemain, parce que ce jour-là, il rentre très tard, il rentre jamais tard, il rentre avec les feux tout éteints dans la rue, elle va lui dire, il va bien sûr botter en touche, puis entre-temps, le notaire va être mis en cause, donc elle va un petit peu douter quand même, mais elle va quand même trouver des preuves que c'est lui. Elle va garder ce secret-là pendant une année, ils vont déménager, ils sont toujours avec son mari, ils vont partir dans le sud, et en 75, lors d'une une dispute où elle sera d'ailleurs sérieusement blessée par son mari, lui va lui avouer, parce qu'elle va lui remettre en scène cette histoire, et il va avouer qu'il a tué Brigitte Doev, mais il lui dit, tu te tairas, car c'est notre fils qui prendra, donc elle aura toujours peur qu'il puisse faire du mal à son fils.
Donc elle se tait, au fond, jusqu'à la prescription, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marche arrière possible, parce qu'aujourd'hui, même si vous nous donnez dans 5 minutes ou dans un an le nom de l'assassin de Brigitte Doev, il lui arrivera strictement rien.
Absolument rien, même cet homme pourrait même porter plainte contre moi, donc ça se fait pour diffamation.
Mais elle, sur le contexte, ces histoires de parties fines, de partouzes, de fils, terrain vague, tout ça, elle sait des choses ?
Non, elle sait surtout... lui, c'est l'assassin improbable. C'est-à-dire que c'est là où on voit que dans ce bois, il se passait quelque chose. Il venait là pour justement avoir sa... Moi, j'appelle ça sa collation, mais...
Sa gratification.
Sa gratification, voilà.
Bon.
Et si vous voulez, je pense que Brigitte est passée là au mauvais moment. Il a confondu avec peut-être une autre fille qui pouvait pratiquer ce genre de truc. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là.
Ce monsieur, il est toujours vivant ?
Tout à fait.
Vous l'avez identifié ?
Localisé, identifié.
Mais dans votre livre, vous ne l'avez pas rencontré ?
Non, c'est ce qu'on compte, faire maintenant. Bah, c'est pas vraiment le tome 3, parce que ce qui compte surtout maintenant, c'est de porter les conclusions, parce que tout ce qui m'a été dit par cette dame rentre dans les cases, rentre dans l'enquête, rentre dans la façon où il est habillé, le col roulé du soir, etc. Enfin, tout ce qui a été dit, et puis surtout, j'ai une photo qui correspond à physiquement à ce que Dominique Roger, la dernière personne à avoir vu Brigitte avec cet homme, des éléments correspondent.
Donc, prochaine étape, allez le voir.
Ma prochaine étape, aller voir cette dame réellement les yeux dans les yeux, mais je sais que on a déjà fait écouter son témoignage par des gens plutôt spécialisés et psychologues pour voir si c'était la route, et après voir ce monsieur.
Ok, ben écoutez, merci à vous. Vous reviendrez donc, je re-raconterai l'histoire de Bruyères-en-Artois et vous viendrez nous donner le point final de votre enquête. Je renvoie à vos deux livres qui sont des petites mines d'or pour tous ceux qui s'intéressent. Alors là, aux tout petits détails de cette histoire, Brigitte, histoire d'une contre-enquête chez Ravé Anceau et chez le même éditeur, Brigitte, acte 2, signé donc Daniel Bourdon.
Merci beaucoup Christophe Ondelat, merci à vous, on vous retrouve bien sûr demain et dimanche à 14h sur Europe 1 depuis les studios de Seine-Sévenne, puisque c'était votre dernier jour Christophe ici en direct de la rue François 1er au Olivier Delacroix. Vous écoutez à 15h, bonjour Olivier.
Bonjour Anissa.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien.
Quel est le programme du jour, Olivier ?
Aujourd'hui, nous allons parler d'un vaste sujet pour vous toutes et vous tous, les réseaux sociaux. Quel effet sur le rapport à notre image et donc à votre image ? Vous êtes nombreux et nombreuses à vous prendre en photo tous les jours. Que cela dit-il de vous ? On va en parler aujourd'hui.
N'hésitez pas à témoigner, 39 21, c'est le standard d'Europe 1. Et puis les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.